Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice Almeida. Dans cet épisode, je vous emmène en Normandie en 1639. C'est là qu'éclate la révolte des nu-pieds. Et si c'était l'ancêtre de nos gilets jaunes?
Au cœur de l'histoire.
On est à deux jours de la mobilisation des gilets jaunes.
C'est la particularité du mouvement qui se veut apolitique.
Ça me dit, ça va être à la France entière, ça va être. Là, on voit la différence. Tout le monde en a marre, tout le monde, même les riches en ont marre.
On n'a plus rien dans notre porte-monnaie à la fin du mois. On est en découvert et on en a marre.
Des opérations escargots et des rassemblements de piétons seront organisés dans la ville.
Il n'y a pas que l'essence, il y a tout. La CSG, les taxes, les augmentations d'impôts.
Il faut continuer vraiment jusqu'à ce que ça change.
Disons-le simplement, les gilets jaunes sont entrés dans l'histoire. Ce mouvement sans leader, spontané, avec ses colères et ses demandes directes, a secoué la torpeur politique des vieux partis. Un mot d'ordre est sorti de cette protestation contre la vie chère et les taxes. Cette révolte si actuelle fait écho à notre passé, aux grandes mobilisations de nos ancêtres, ce que l'on appelait jadis les émotions populaires. Et de l'émotion, il y en a eu avec les gilets jaunes. Pour comprendre ce mouvement, mettre en perspective cette colère, je vous propose de revenir sur une révolte lointaine. C'était le 16 juillet 1639. Ce jour-là, en Normandie, le peuple se soulève contre la fiscalité du roi Louis XIII. Le mouvement de ceux qui se font appeler les nu-pieds prend une ampleur inédite et sa répression sera particulièrement brutale. Alors, les nu-pieds, ancêtres des gilets jaunes? Pour le savoir, suivez-nous au cœur de l'histoire. 16 juillet 1639. Ce samedi, c'est jour de marché à Avranches, une petite ville en Basse-Normandie, entre la cathédrale et le château avec ses murailles. Depuis plusieurs mois, dans cette commune de quelques milliers d'âmes, une rumeur court. Le roi et son ministre Richelieu ont prévu d'instaurer la gabelle. Le bruit s'est répandu des bocages du Cotentin au sable mouvant du Mont-Saint-Michel. Il trouve un écho particulier ici parce que la gabelle, cet impôt sur le sel, porte atteinte à un privilège fondamental de la Normandie. Le carbouillon, oui, c'est un mot rigolo. Mais ici, on a le droit de produire son sel et de le vendre sans payer d'impôts. Or, Richelieu voudrait remettre tout cela en cause. Imposer la gabelle partout en France. Le cardinal veut financer sa guerre contre l'Empire des Habsbourg qui s'étend de l'Espagne à l'Autriche en passant par la Belgique actuelle. Une guerre à laquelle les Normands se sentent étrangers, surtout si elle doit se traduire par des impôts supplémentaires, alors que le peuple souffre déjà des rudes conditions de vie. Devant le danger, depuis plusieurs mois à Avranches et dans les environs, on s'est organisé et on attend. Par roulement, les hommes de la communauté sont chargés de surveiller ceux qui arrivent, intendants ou représentants du roi. On veut bloquer ceux qui viendront percevoir l'impôt. Et ce 16 juillet 1639, le prêtre Bastard, accompagné d'un certain Boniel, joue les veilleurs. À quelques pas de la porte, il observe les arrivants et en ce début de matinée, il remarque l'arrivée d'un homme à cheval, plutôt bien habillé. Que vient faire cet étranger en ville, se demande-t-il. En fait, ce personnage s'appelle Bénardière Poupinel. Il est lieutenant au présidial, le tribunal de justice de Coutances. Et il est venu à Avranches pour présenter au juge de la commune une commission du tribunal de Rouen au sujet d'une vague querelle. Un courrier anodin et une mission judiciaire simple. Mais le prêtre Bastard et Boniel l'ignorent. Intrigué, il décide de suivre le cavalier et d'enquêter. En son absence, il pénètre jusque dans sa chambre pour examiner ses papiers et sur sa table, l'arrêt qu'il venait pour faire exécuter et la commission qui y était attachée. Les voici plongés dans le doute. Très vite, les deux hommes, pour se donner de l'importance, en informent deux autres de rang plus élevé puisqu'ils appartiennent à la noblesse. Leurs noms, Pontébert et Champartin. C'est par ces deux hommes que la rumeur se répand en ville. Et elle va très vite, de même que son contenu est aussi vite dénaturé par l'inquiétude qui règne, la peur de devoir payer l'impôt. Sur le marché, ce samedi, les femmes et les hommes commentent la nouvelle. Le fantasme prend corps. Ça y est, on est venu imposer la gabelle et démolir les salines, ces belles salines qui depuis des siècles dans la baie du Mont-Saint-Michel alimentent toute la région. On court chercher les sauniers qui travaillent sur les grèves en contrebas d'Avranches. Bientôt rejoints par les porteurs de bois, deux professions directement concernées par la suppression éventuelle des salines et l'instauration d'une gabelle. Une heure et demie plus tard, ils sont en ville. Et c'est désormais une centaine de personnes qui va à la rencontre du sieur Benadière Poupinel. Le malheureux est saisi, frappé. Une chronique de l'époque précise. Il est outragé de coups de pied, de coups de poing, de pierres et de bâtons. À midi et demi, il meurt sous les coups des émeutiers. Une mort gratuite, folle. Cet épisode libère l'inquiétude et la colère contenue depuis des mois. Car l'agitation ne s'arrête évidemment pas là. À 5h du soir, le groupe s'attaque à Saint-Martin, un sergent préposé à la levée du sol pour livre, un tout petit impôt indirect sur la vente de sel à la main. Laissé pour mort sur le sol, le malheureux Saint-Martin parvient à se relever et à se glisser chez une amie, une certaine demoiselle Sainte-Marie. Le désordre rebondit ailleurs. Dans la nuit, trois hommes s'attaquent au bureau de 5 grosses fermes, c'est-à-dire des maisons appartenant à des personnes chargées de prélever les taxes. Un pas est franchi dans la révolte. Désormais, tout homme ou bâtiment représentant le roi est pris pour cible. Dès le lendemain, les révoltés s'attaquent à un certain Jean Pourcel, chargé de lever des taxes faites sur les emplois publics, ce que l'on appelle à l'époque les offices. Quelques jours plus tard, dans la région d'Avranches, toujours, ce sont les sieurs Vangeroust, un financier, et un certain Beaupré, conseiller à la cour des aides, qui sont agressés. En fait, la révolte est à la charnière de la vie locale et des exigences nationales. Les rancunes personnelles se libèrent, comme quand Pontébert, leader de l'émeute, s'attaque à son vieux rival Beaupré et en profite pour l'éliminer. Mais c'est aussi un sentiment plus profond d'être pris pour des vaches à lait qui soulève la colère populaire. Car la rumeur sur la gabelle est vraie. Mais dans les esprits, elle se conjugue avec la crainte que tout augmente, que la vie devienne impossible à force de taxes, que l'on y perde tout simplement le sel de l'existence. Bientôt, comme une flambée de poudre, la révolte s'étend. On note des incidents dans les jours qui suivent. Par exemple, à Vire, le 12 août. De nouveau, la scène de révolte se répète. Ce matin-là, les habitants des paroisses alentours se précipitent dans le bureau de l'élection, encore un bureau fiscal. La suite est racontée par la Gazette de l'époque.
Le peuple des faubourgs attaque en plein auditoire les officiers de l'élection, qui étaient tous en séance à rendre justice. Et après leur avoir demandé où étaient les parquets de la gabelle, qu'ils s'imaginaient être entre leurs mains, ils firent grêler tant de coups de pierre et de bâtons sur le sieur de Sarcilly, président, qu'il demeura comme mort sur la place. Ses autres confrères s'étaient sauvés par les fenêtres.
Inexorablement, toujours suivant le même processus, la révolte gagne en Normandie. Le lendemain, à Caen, des émeutiers s'en prennent aux commis en charge des impôts sur le cuir. Puis c'est au tour de Rouen d'être touché. Un certain Gorin, à la tête de 200 ou 300 séditieux, s'attaque à l'huissier, au greffier, pille les bureaux. Lors de l'attaque de la maison du receveur des gabelles, ce dernier riposte et tue le fils d'un bourgeois. Les bourgeois, à la suite de cet incident, rejoignent les émeutiers. Puis c'est à Bayeux, le 25 août, qu'une maison est pillée, celle du fermier, à nouveau, de la taxe des cuirs. À l'annonce des soulèvements de Bayeux et de Rouen, à Caen, tout s'accélère. Et puis, vient Coutances. Charles Nicolle, le receveur des tailles, est attaqué dans sa maison. Son corps est traîné par les rues, comme dans un carnaval, entre fêtes et cris de joie. À la nuit, on a traqué ses agents pour les frapper, les humilier. Puis viennent Mortain, Carantais. C'est bientôt toute la Normandie qui se soulève. Au mois de septembre, la révolte prend des allures de guerre. Les émeutiers se sont fédérés et dotés d'une organisation militaire, avec un nom. L'armée de la souffrance. Des chansons, des textes, des écrits se diffusent et racontent la geste de ceux qui se désignent maintenant sous le nom de nu-pieds. Nu-pieds. Le nom retrouve l'origine de l'insurrection puisque c'est ainsi que l'on surnomme les sauniers qui s'en vont pieds nus travailler. La révolte des hommes du sel, pourrait-on dire aujourd'hui, et cette révolte a parmi d'autres un manifeste qui expose très clairement les motifs pour se soulever.
Quoi ? Nous défendrait-il trop tard ? Nous sommes trop dans la détresse. Les armées et le cardinal ont tous nos biens et nos richesses. Après n'avoir plus rien du tout, pourrions-nous bien venir à bout d'un si grand nombre de merveilles ? Nous sommes aux derniers abois. Oui, le proverbe de nos vieilles dicte qu'il vaut mieux tard que jamais.
Comme beaucoup de mouvements, les nu-pieds se choisissent un leader, un chef. Car toute armée doit avoir son général. Les émeutiers ont désigné le leur, il s'appelle Jean Nupier. On ne sait pas vraiment son identité, reste qu'il incarne la figure du héros et du porte-voix qu'on magnifie. D'aucuns le disent issu de la petite noblesse taillée pour le combat. Et d'ailleurs, dans le manifeste du haut et indomptable capitaine Jean Nupier, on dit à quel point on espère sa victoire.
Jean Nupier est votre suppôt, il vengera votre querelle. Vous affranchissant des impôts, il fera lever la gabelle. Et nous ôtera tous ces gens qui s'enrichissent aux dépens de vos biens et de la patrie. C'est lui que Dieu a envoyé pour mettre en la Normandie une parfaite liberté.
Jean Nupier fait donc vivre tout l'espoir. Et une telle ardeur ne s'éteint pas en une semaine. Pendant 4 mois, l'agitation en Normandie est constante. Quand le mouvement paraît s'apaiser en un point, il reprend en un autre. Cependant, les révoltes éparses ne réussissent pas leur jonction en une grande action commune. Oui, on se réclame partout de Jean Nupier, mais non, il n'y a pas une unique armée. En revanche, l'objet de la révolte, lui, s'élargit. On peut l'entendre dans les manifestes. Au départ, le point essentiel commun à tous, c'est la lutte antifiscale. La liberté, l'opposition à la tyrannie, l'appel aux paysans, aux nobles, contient toujours des idées sous-jacentes d'opposition à l'impôt. L'horreur, c'est le hors-in, l'étranger au pays, celui que l'on ne connaît pas, qui vient d'ailleurs et dont la venue provoque immédiatement l'inquiétude, la méfiance. Qui sont ces émeutiers? Là aussi, c'est vague et large. On trouve toutes les strates de la société, des paysans aux prêtres et même certains nobles ou bourgeois. C'est la paroisse qui se soulève, réunie à l'appel du tocsin. Les solidarités locales jouent à plein. Quand le peuple bouge, ses élites se joignent à lui. Quelques petits nobles rejoignent donc le mouvement et se portent à la tête. Face à cette situation, le roi ne peut pas rester sans rien faire. Et la répression n'en sera que plus terrible, car le souverain envoie des troupes combattantes rétablir l'ordre et vivre sur le pays, c'est-à-dire le piller. Cette mission est confiée à 2 officiers supérieurs. La lettre de mission que leur écrit le roi leur confie clairement carte blanche pour liquider les émeutiers.
Après que vous aurez rétabli les bureaux de mes droits et remis toutes choses dans l'obéissance et la tranquillité, mon intention est que vous alliez le plus diligemment avec toutes mes troupes à Avranches et que vous fassiez tailler en pièces les séditieux qu'ils se trouvent assemblés dans quelque lieu que ce soit et que vous fassiez raser les faubourgs de la ville d'Avranches.
Pas d'hésitation donc. Et le 30 novembre 1639, les révoltés sont défaits sous les murs d'Avranches, perdant 300 tués dans le combat. Ensuite vient le châtiment, toujours sur ordre du roi.
Quant à la punition de ceux qui ont été faits prisonniers, j'approuve entièrement la résolution que vous avez prise de faire exécuter à mort 30 des plus coupables. Mais afin de la rendre plus exemplaire, mon intention est que tous les autres qui auront, je m'assure, été retenus au plus grand nombre que l'on aura pu, soient mis aux galères.
Le roi ne tergiverse pas, on l'aura compris. Il veut à tout prix éliminer les meneurs. Celui qui coordonne toute la répression en Normandie est un personnage considérable, le chancelier Séguier. En l'absence du cardinal de Richelieu et le roi étant occupé par la guerre, c'est donc lui, le 3e personnage de l'État, qui est chargé du nettoyage des révoltés. N'est-il pas, en tant que chancelier, le gardien des sceaux de la justice? Parti de Paris quelques jours plus tôt, le 4 mars 1640, vers midi, le chancelier Séguier arrive en voiture dans les faubourgs de la ville de Coutances. Son escorte est composée d'une imposante troupe qui venait de reprendre en main Bayeux et Saint-Lô. En arrivant dans les faubourgs de Coutances, Séguier entend une clameur s'élever. Des centaines de femmes vêtues de blanc sont agenouillées. Elles supplient. Les unes pleurent, les autres, le visage déformé par la tristesse, crient leur inquiétude. D'abord figées, elles s'avancent bientôt vers lui en implorant sa miséricorde. Le grand homme d'État reçoit les suppliques le visage impassible. Il n'est guère enclin à la clémence. Pourquoi ne pas raser la cité et en détruire les habitants, puisqu'il en a le pouvoir? À l'inverse, il pourrait se montrer généreux afin de régler la situation rapidement et d'affirmer à peu de frais la grandeur de la monarchie. En vrai juriste et garde des sceaux, il choisit de faire passer la justice, fût-elle expéditive, le jour même. Il ordonne l'arrestation des auteurs des exactions. Jugés et condamnés dès le lendemain, les coupables sont pendus sur la place du marché de blé. Pour l'occasion, il a fallu dresser une potence à 4 branches. Rapidement, le 7 mars 1640, Séguier et ses hommes repartent ailleurs à poser la main de la justice royale. Avec la répression du chancelier Séguier, l'ordre est revenu dans toute la Normandie. Pour Louis XIII, une conclusion s'impose. Il ne pourra plus imposer la gabelle dans cette province. Il décide donc de suspendre son édit. Il financera autrement sa guerre. Pour les nu-pieds, c'est une petite victoire, mais évidemment posthume. Dans l'histoire de la France et dans celle de l'Occident, le XVIIe siècle est donc celui des grandes révoltes. Des événements qui se sont noués dans la paroisse, cet espace de proximité où se mêlent la vie spirituelle et la richesse matérielle d'une communauté. Mais il ne faut pas s'y tromper, dans ces révoltes ne se jouaient pas les prémices de la grande révolution prolétarienne qui aboutit en Union soviétique en 1917. Non, rien de communiste dans cette démarche. Les motivations allaient de la solidarité entre voisins au rejet des obligations nouvelles, alors que la vie n'était pas toujours facile. Il y avait aussi la volonté de conserver son identité locale alors que l'État voulait déjà uniformiser le pays à travers ses exigences. Cette France d'en bas, que les souverains ne voient pas depuis leur capitale, hurlait ainsi ses difficultés et appelait au secours. Car les révoltés se sont rarement appuyés sur l'idée d'indépendance. Ils ne cessaient d'espérer l'aide du chef de l'État, du roi, que l'on imaginait mal conseillé, mal informé. Que de parallèles avec la situation actuelle. Entre aspiration à maintenir un mode de vie et désir de ne pas être oublié du pouvoir central, n'est-ce pas cela que portent aujourd'hui les Gilets jaunes ? Alors que se refermait la révolte des nu-pieds, Louis XIII et Richelieu, malades, approchaient de la fin d'un règne. Ils ignoraient l'un et l'autre qu'allait se lever une période faste, qui ferait la grandeur de la France, le règne de ce petit enfant, né tout juste l'année précédente, en 1638, Louis XIV. Ce roi dont le nom à lui seul emporte l'idée d'un pays grand et riche, mais pas toujours tendre aux douleurs de son peuple. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite.
Ce podcast est une création Europe 1 Studio, imaginée et racontée par Fabrice Dalméda. Il a été préparé et écrit par Simon Maisonneuve, réalisé et produit par Christophe Davio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.